Bonjour Sylvain Maillard.
Bonjour Frédéric Rivière.
Une nouvelle journée de mobilisation à l'appel de la CGT contre la réforme du Code du Travail a lieu aujourd'hui. Et depuis New York, où il se trouve pour l'Assemblée Générale des Nations Unies, Emmanuel Macron a eu les propos suivants. Je crois dans la démocratie, mais la démocratie ce n'est pas la rue. Est-ce qu'il n'y a pas dans ces propos une forme de provocation ?
La démocratie ce n'est pas la rue. La démocratie s'est exprimée en mai et en juin dernier et a donné à Emmanuel Macron une majorité pour gouverner le pays, pour transformer notre économie, pour faire les réformes que nous n'avons pas faites depuis 30 ans. Ça a été très clair, ça a été un vote massif et confirmé par la législative 6 semaines plus tard. Donc la démocratie ne se fait pas dans la rue. Ça ne veut pas dire que nous n'écoutons pas la rue, ça ne veut pas dire que nous n'entendons pas les peurs, les angoisses qui peuvent exister. Ça ne veut pas dire que nous sommes enfermés dans une assurance que nous avons toujours raison. Ça veut juste dire que nous avons été élus cette fois-ci pour faire les réformes.
On va revenir sur ce point. Le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, n'a pas fait dans la dentelle pour sa part hier en disant « Je respecte le droit de manifester, mais je ne veux pas qu'on emmerde les Français ». Là aussi, on pèse ses mots peut-être, normalement, non, pour ne pas attiser le climat social, les tensions, les difficultés.
Qu'on soit bien d'accord. Il y a des manifestations qui ont le droit et qui sont justes, je dirais. Nous avons le droit, dans notre pays, d'exprimer notre désaccord et de manifester. Par contre, avons-nous droit de bloquer l'ensemble des transports ferroviaires ou bien les dépôts de carburant? Ça, je pense que c'est un... En tout cas, nous estimons que c'est un abus. C'est un abus du blocage de la volonté de dire « Voilà, nous ne sommes pas d'accord, donc nous empêchons les réformes. »
Alors, dans cette interview accordée aux États-Unis, Emmanuel Macron ajoute si je respecte ceux qui manifestent, je respecte aussi les électeurs français, c'est un peu le sens de ce que vous disiez, et ils ont voté pour le changement. Mais est-ce que Emmanuel Macron n'oublie pas quand même un peu rapidement le contexte de l'élection présidentielle, la présence de Marine Le Pen au deuxième tour ? Et son score au premier tour, 24%.
Et donc nous restons dans l'immobilisme en se disant, mais tant que nous n'avons pas un score de maréchal dès le premier tour, nous ne pouvons pas faire les réformes. Moi, il y a une élection toute simple, une élection où Emmanuel Macron est arrivé en tête du premier tour et a gagné largement un deuxième tour. Vous avez raison, le contexte est particulier dans le deuxième tour puisque c'était face à Marine Le Pen. Donc ça, c'est très clair.
De sorte que de nombreuses personnes, de nombreux électeurs ont voté pour lui, non pas en soutien, mais pour faire barrage à Marine Le Pen.
Mais bien entendu. Et ça, nous ne l'avons jamais contesté. Mais ce que nous ne contestons pas non plus, et je crois que personne ne le conteste, et il faut le rappeler, c'est que nous sommes arrivés, Emmanuel Macron est arrivé en tête au premier tour. Et nous n'avions pas de vieux partis installés avec une habitude de vote. Les électeurs d'Emmanuel Macron se sont portés sur lui, alors qu'il y a encore quelques années n'était pas dans le paysage politique, se sont portés sur lui, sur son vote, parce qu'il portait une espérance. Et cette espérance, nous voulons aussi la porter. Elle a été confirmée par les législatives suivantes. Donc voilà, nous appliquons. Nous faisons quelque chose d'assez neuf en politique, c'est-à-dire que nous appliquons les promesses de campagne.
Pour en revenir à la rue et à la démocratie, vous savez qu'un certain nombre de conquêtes sociales que personne aujourd'hui ne songerait à remettre en cause ont été obtenues dans la rue.
Écoutez, oui, forcément, si on revient dans l'histoire de France, nous trouvons toujours des exemples de choses qui ont pu contester et être une réussite plus tard. Écoutez, chacun dans son rôle. Nous sommes dans notre rôle, nous, d'appliquer nos promesses de campagne. La CGT ou d'autres mouvements, France Insoumise est peut-être dans son rôle de contester dans la rue. Nous, la seule chose que nous demandons, c'est pas d'interdire évidemment les contestations. La seule chose, c'est de ne pas bloquer la France.
Et la démocratie elle-même, d'ailleurs, a été obtenue dans la rue.
La démocratie a été obtenue, oui, dans la rue et dans les larmes et dans le sang, c'est vrai.
Les ordonnances doivent être signées demain. Est-ce que les manifestants perdent leur temps ?
Non, parce que nous faisons toujours de la politique et j'entends bien que nous pouvons, que chacun dans son rôle de faire de la politique, quel que soit le timing. Nous avons le nôtre. Il a été clairement énoncé pendant la campagne électorale. Nous avions dit que nous passerions par ordonnance. Le Conseil des ministres va les entériner, puis quelques décrets d'application concrets seront signés dans les jours qui viennent, voilà, pour être en application dès le début octobre.
Le gouvernement a annoncé hier un plan logement. L'objectif est de créer ce qu'il appelle, le gouvernement, un choc de l'offre. Les promoteurs immobiliers sont relativement satisfaits, mais les bailleurs sociaux, eux, sont très inquiets des efforts financiers qu'on leur demande pour compenser la baisse des appels. Est-ce que ce plan n'est pas un peu déséquilibré ?
Il faut revenir à la situation actuelle. Est-ce que la situation actuelle correspond à ce qu'attendent nos concitoyens? Est-ce que nous trouvons facilement des logements en France? Non. On le sait très bien. Donc, est-ce qu'on continue dans cette situation où les appels ne sont jamais suffisants et l'offre de logements n'est jamais suffisante? Nous avons décidé de créer un choc. Le choc, c'est-à-dire qu'il faut construire en France. Nous avons besoin de construire en France pour que nous puissions nous habiter de façon plus sereine, de changer, d'une mobilité. Nous devons nous organiser pour que le marché du logement ne soit plus crispé comme il l'est à l'heure actuelle. Nous avons besoin de plus, même dans le logement, de flexibilité. Nous avons besoin d'avoir aussi des loyers, et ça, c'est un des c'est pas dans votre question, mais je crois que c'est fondamental dans l'esprit des Français. Nous avons besoin aussi d'avoir des loyers qui baissent. Nous avons un niveau de loyer qui est totalement décorrélé par rapport aux revenus moyens français.
Particulièrement dans les grandes villes et particulièrement à Paris.
Particulièrement à Paris. L'élu parisien que je suis connaît aussi les causes de ça. C'est-à-dire un foncier qui est totalement bloqué, un manque de flexibilité, de fluidité dans le logement social, où ce sont des logements à vie. Il nous faut créer aussi ce dynamisme, mais aussi construire. Et pour construire moins cher, il faut aussi que certaines normes soient abandonnées parce qu'on fait de la surqualité et donc on ne construit plus.
Oui, mais demandez aux bailleurs sociaux dont plusieurs sociétés sont déjà pratiquement dans le rouge ou totalement déficitaires même, de compenser la baisse des appels de 50 euros, est-ce que ça n'est pas les condamner à mort ?
Les bailleurs sociaux sont dans des situations très différentes. Mmh. Certains vont très bien, d'autres vont moins bien. Il faut regarder, une à une, ces sociétés, regarder ce qui se passe, comment elles sont gérées aussi. Je pense qu'il y a un sujet aussi là-dessus, comment elles sont gérées. Et leur demander l'effort que l'on demande à l'ensemble des Français doit aussi toucher ce type d'organisme, tout simplement.
On a appris il y a quelques instants que Florian Philippot quittait le Front National après des semaines de tensions, et notamment par médias interposés entre lui et Marine Le Pen. Qu'est-ce que va changer, qu'est-ce que peut changer, selon vous, le départ de Florian Philippot sur la vie et l'avenir du Front National ?
Moi, j'ai pas commenté dans ma situation ce qui se passe dans le Front National. La seule chose, c'est que je constate qu'il y a eu, et quelque part je m'en réjouis, un avant et après débat présidentiel, tout simplement. C'est la continuité de ce débat présidentiel qui a montré que le FN est arrivé aux limites entre invective en permanence, Yaka Faucon et une dirigeante qui veut devenir présidente de la République, qui a montré largement son incapacité, ne serait-ce qu'à tenir un semblant d'idée sur la construction française. Bon, voilà, je pense que c'est la suite et la queue de la comète, mais j'espère que ce sera un peu plus profond au sein du Front National.
Mais est-ce qu'il n'était pas, d'une certaine manière, une sorte de garde-fou contre une ligne ultra-identitaire, contre l'immigration? Est-ce qu'il ne protégeait pas contre, finalement, le vieux Front National de Jean-Marie Le Pen ?
Si vos propos sont justes, ça veut dire que nous avions raison et dire que le Front National reste le Front National. Le Front National de Jean-Marie Le Pen est toujours là. Et donc, s'il fallait juste une personne pour protéger le Front National de cet extrémisme, c'est bien triste. Et donc, ça validerait tout ce que l'on dit depuis le début. Le Front National est dangereux, dangereux pour notre démocratie, dangereux tout court. Et plus il est faible, mieux c'est. Probablement.
Merci Sylvain Maillard, bonne journée.
Merci.